révolution numérique, point d'interrogation, ça veut dire d'emblée, comme vous l'imaginez, il faut qu'on questionne les mots. On parle effectivement de révolution numérique, on parle aussi, il y a des termes un peu à la mode, on parlait d'ubérisation, par exemple, du monde professionnel. Donc il y a toute une doxa, un discours dominant. Et comme tout discours dominant, il véhicule des vérités. Hein. Effectivement, le numérique, ce qu'on appelle le numérique, est une grande catégorie dans laquelle on met beaucoup, beaucoup de choses, est souvent mis à l'endroit imaginaire des causes premières ou des origines des transformations sociales, des transformations de société, des transformations des manières de travailler. C'est vrai, on ne peut pas dire autre chose que le numérique aujourd'hui a un impact extrêmement fort sur les usages dans toutes les catégories, et y compris dans les nôtres. On l'a juste évoqué tout à l'heure et on y reviendra cet après-midi de manière beaucoup plus forte dans le milieu muséal. Donc les pratiques de médiation culturelle sont impactées en fait par cette culture numérique. Mais il m'a semblé nécessaire d'essayer d'éviter en fait le double bind de la technophobie et de la technophilie. D'un côté, effectivement, il faut résister contre tout dispositif technique, quel qu'il soit, quand il préempte en fait une façon de penser, une façon de pratiquer. Donc on doit résister contre. Mais aussi, on doit résister pour, d'une certaine manière, c'est-à-dire se saisir de ces outils-là pour en faire quelque chose peut-être de nouveau. Et cet aspect positif, lui aussi, verse dans une autre doxa, mais qui est complémentaire, finalement c'est la même doxa, c'est la technophilie. Et on a en fait, et on est assez spécialiste en France hein, pour avoir ces deux types de discours, technophobie, technophilie. On doit essayer évidemment de s'en sortir. Et comme ça a été dit tout à l'heure, tout type de technique, j'enfonce là aussi une porte ouverte, produit le meilleur et le pire. Mais une fois qu'on a dit ça, on ne peut pas évacuer d'un revers de main ce dispositif, en tous les cas, ces agencements numériques qui nous impacte dans notre vie quotidienne, bien au-delà du monde artistique et de l'éducation. Donc une mise en perspective critique, tout simplement en vous proposant quelque chose d'assez simple, c'est-à-dire qu'en fait, pour montrer que le dispositif technique, le numérique, questionne un certain nombre de catégories, notre rapport au temps en particulier. Alors, j'ai pris ce premier angle d'attaque avant de vous montrer deux exemples artistiques qui se sont saisis de ces questions via les technologies, justement, deux exemples très, très récents. La question du temps réel, ça a été dit tout à l'heure, on est tous soumis, en fait, et il y a beaucoup, beaucoup, d'ailleurs, de recherches dans le domaine, on est soumis à une forme d'accélération, en fait, de tout type de processus. Le sociologue le plus connu qui s'est fait connaître dans le domaine, Arnaud Rosa, a écrit, en fait, de manière très, très précise sur cette accélération, en fait, de notre société, notamment des usages, pris dans des dispositifs non seulement techniques mais aussi sociétaux, et souvent dans le cas de cette doxa on repère en tous les cas cette idée d'immédiateté, c'est-à-dire que le numérique nous impose d'une certaine manière un rapport au temps, donc une temporalité qui est celui du temps réel. Donc on peut se poser une première question: est-ce que c'est une spécificité numérique? Alors avant de répondre à la question, je vais faire un parcours très très rapide. Vous voyez avec une perspective historique comment Newton n'avait pas de smartphone dans sa poche, mais il avait en fait interrogé, comme on le sait tous, en fait, la question du temps et de l'espace. Et si je lis ce qui s'affiche à l'écran, les objets matériels de l'univers ont entre eux des relations externes. C'est Newton qui parle, en tous les cas c'est un résumé. L'espace est simplement là et des événements s'y déroulent. Il est indépendant de leur déroulement. Espace et temps absolu, existant indépendamment des choses qui composent notre monde, sont homogènes et neutres, indifférents aux choses qui peuvent prendre place en eux, et infinis, puisque tout commence et tout finit en eux, tandis qu'eux-mêmes ne sauraient, par voie de conséquence, avoir ni début, ni fin, ni limite quelconque. Et pourquoi je vous parle de Newton? Parce qu'en fait, on va faire un jeu comme ça entre différents théoriciens. Là, c'est Leibniz, qui n'avait lui non plus pas d'iPad dans sa poche. Et Leibniz, si on reprend, en caricaturant bien sûr, en résumant leur propos sur la définition de l'espace et du temps, Leibniz, qui est contemporain, dit « l'espace est une relation entre des substances ». Mais il est lui-même sans substance. Les substances individuelles sont déterminées par harmonie préétablie avec ces relations, c'est-à-dire par des raisons internes inscrites dans l'acte même qui les crée. L'espace et le temps, loin d'exister par eux-mêmes, ne sont qu'un certain arrangement ou un certain ordre général entre les choses. Et là, on voit, je mets en face ces deux figures, deux conceptions de l'espace et du temps très, très, très différentes, pour ne pas dire opposées. Et si je vous montre ça, c'est simplement pour vous montrer qu'à une époque précise, on peut avoir des points de vue évidemment différents, mais des points de vue qui ne sont pas des opinions. Ce sont en fait des savoirs, des connaissances qui sont construites par des philosophes ou des scientifiques et qui correspondent à ce qu'on appelait dans les années 60 à une épistémée, c'est-à-dire des possibilités de dire, de voir et de comprendre le monde d'une certaine manière. Et qu'à une même époque, on peut avoir des manières de penser la temporalité, le temps ou l'espace de manière très très différente, qui ne sont pas dégagées des aspects techniques, mais qui en tous les cas ont une manière de qualifier le monde de manière très différente, de telle sorte qu'on pourrait dire, en forçant un peu le trait et en reprenant Michel Foucault, que ces philosophes et ces scientifiques énoncent des vérités, que ces vérités en fait peuvent être prouvées, mais que ces vérités doivent être elles aussi critiquées. Et là, justement, la différence entre une vérité scientifique ou une vérité énoncée par des philosophes est très différente d'une vérité religieuse, par exemple, puisqu'en fait, ces vérités-là peuvent être déconstruites et doivent être ouvertes en fait, à la critique. Et donc, ce jeu critique, ces dialogues critiques et ce rapport à la réalité qu'on doit avoir doit être évidemment critique, mais dans ce sens-là très particulier. C'est-à-dire pas une critique contre ou une critique pour, mais une critique absolument argumentée. Si on prend un autre exemple sur la question d'espace et du temps, je prends de là des figures extrêmement connues, pas besoin de citer, la relativité. Alors c'est intéressant parce que la relativité abolit le temps universel qui a été évoqué par Newton, et alors que nous-mêmes, on a l'impression de vivre dans un espace neutre et dans une temporalité neutre. C'est-à-dire qu'on est dans notre esprit très souvent dans une représentation newtonienne en fait de l'espace et du temps. Alors qu'il y a un peu plus de 100 ans, a été inventée une catégorie très très spécifique, l'espace-temps. C'est-à-dire qu'on ne peut plus dissocier l'espace du temps, et notamment la relativité donc abolit le temps universel et n'admet plus que sa localité. Le temps et l'espace ne sont plus séparés, on doit parler de temps, d'espace-temps, j'allais dire de temps-espace. Les quatre dimensions restent irreprésentables pour notre compréhension immédiate, mais elles n'ont rien d'inaccessible. Einstein nous libère des interdits d'un euclidisme. Et je prendrai un exemple très très concret tout à l'heure pour illustrer ça. Et je cite Einstein, c'est à la science qu'il faut demander la vérité sur le temps comme sur tout le reste. Mais ça reste quand même une affirmation qu'il faut aussi critiquer. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de scientifiques aujourd'hui qui interdisent parfois de critiquer des choses qui sont démontrées comme étant vraies. Je ne veux pas polémiquer parce qu'il n'est pas dans la salle, mais je pense à Étienne Klein, par exemple, sur la question du temps et de la temporalité, il énonce un certain nombre de vérités. Et ces vérités, on s'aperçoit dans le débat, quand on a des débats avec lui, on s'aperçoit qu'on a en face une doxa scientifique qui nous dit « mais c'est prouvé ». C'est expérimentalement prouvé, donc c'est une vérité. Certes, on doit démontrer qu'elle est peut-être fausse, mais aujourd'hui, c'est une vérité qui risque de durer longtemps. Ceci dit, quand on a ce recul historique que j'aborde de manière très très rapide, on s'aperçoit qu'on peut faire une histoire des vérités. Et si on fait une histoire des vérités comme Michel Foucault le faisait dès les années 60, on déconstruit même la catégorie de vérité, et donc on doit avoir une relation toujours critique avec les catégories, y compris scientifiques. Un autre exemple qui nous intéresse plus sur le temps réel, c'est notamment Bergson. Bergson, lui, il a une définition très très particulière du temps réel. Il utilise le terme de temps réel, qui n'est pas le temps réel du numérique, on le verra tout à l'heure. Pour lui, le temps réel, c'est quelque chose qui dure, non pas en restant identique à soi, mais au contraire, en ne cessant de différer de lui-même, de devenir différent de lui-même, contrairement au temps chronologique, mesurable, dénombrable, c'est-à-dire qui trouve une traduction spatiale. La durée est non dénombrable, indivisible pour Bergson, parce que ce qui l'intéresse, c'est la durée, ce n'est pas 1, 2, 3, mais les intervalles, ce qui se passe entre tout ce qui peut être soumis à raisonner à la mesure. Et je pense que la définition du temps réel de Bergson doit être un outil critique, justement, pour se mettre à distance du temps réel qui est joué et qui se met en place dans le cadre du numérique. J'évoquais Michel Foucault, l'histoire des vérités, l'archéologie des savoirs. Il y a aussi Michel Deleuze, et je ne vais pas m'apesanter là-dessus, mais je pense qu'il y a un concept qui est assez méconnu et qui me semble très très intéressant. Quand on parle de Michel Foucault, on a tendance à l'utiliser de manière un peu rapide, et je le fais souvent, quand on utilise les résultats de sa propre recherche, les résultats de sa propre méthode. On connaît Foucault quand il parle des prisons, donc on dit qu'en fait, il a aussi beaucoup travaillé sur le panoptisme, et souvent, on prend les résultats des recherches de Michel Foucault pour les appliquer à notre société, sauf que notre société a changé et qu'on n'est peut-être pas dans un panoptisme généralisé, mais peut-être dans un autre type de visibilité. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a des concepts, il y a des méthodologies conceptuelles proposées par des penseurs contemporains, je vais penser à Stiegler, à Bruno Latour ou bien d'autres, mais y compris des penseurs comme Michel Foucault ou Deleuze qui ne sont plus là, peuvent être opérants si on les utilise comme des méthodes et non pas pour utiliser leurs propres résultats. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que la question du temps réel est un savoir-pouvoir, si on reprend là aussi de manière un peu rapide Michel Foucault, c'est-à-dire qu'on subit une forme d'immédiateté technologique qui représente en fait un pouvoir d'agir qui peut nous freiner, nous, dans notre activité de tous les jours. Donc, j'évoquais le sens bergsonien. Là, il y a un pouvoir d'agir, j'allais dire, positif, intensif. Le temps réel, c'est la durée, donc c'est d'abord son caractère créateur. Mais il y a aussi, dans le temps réel tel qu'on le définit aujourd'hui, un pouvoir de contrôle extensif, dans le sens techniciste du terme. La notion de temps réel est liée à celle de latence, en fait, on va le voir dans des exemples très précis, durée qui s'écoule entre l'action et la réaction. La latence dépend, par exemple, du temps de propagation d'un signal, de la durée d'un traitement par un ordinateur, de la durée nécessaire à mettre en place une réponse, etc. C'est-à-dire quand vous êtes devant un ordinateur, dans un milieu informatique, vous ne distinguez plus de vos propres points de vue, en fait, hein, vous ne distinguez plus l'action de la réaction, et c'est ce qu'on appelle le temps réel, et ce qui nous fait croire à l'immédiateté. Mais on a vu avec Rosetta, par exemple, la mission Rosetta l'année dernière, que le temps réel, c'était aussi une forme de durée. Il fallait au moins une vingtaine de minutes pour piloter en temps réel, entre guillemets, dans le sens techniciste du terme, la sonde qui se posait, en fait, à quelques millions de kilomètres. Donc ça, c'est intéressant parce qu'en fait, le temps réel, l'immédiateté, qui nous permet d'agir très loin dans le système solaire et qui permet d'agir de manière très particulière sur notre surface terrestre, est elle aussi soumise à une forme de résistance de l'espace contre le temps. Donc ce que j'appelle les réalités temporaires, c'est l'ambivalence des relations entre savoir, mondes anciens et contemporains. Je vais simplement accélérer et passer ici. Je vais vous donner un exemple très précis. On connaît tous le GPS. Alors, d'ailleurs, on a tous, pour dire tout à l'heure, on a tous un rapport à l'espace physique urbain qui passe de plus en plus par les interfaces et par les écrans et par les smartphones. Le GPS, comme vous le savez, comme tout le monde le sait, c'est, on le sait à peu près, des terminaux qu'on a dans notre poche ou dans notre voiture et qui nous permettent de nous déplacer, et d'être géolocalisés en temps réel. En fait, cette réalité du temps, ce temps réel très particulier instaure un rapport à notre territoire qui est ambivalent. Parce qu'en fait, notre rapport au territoire passe par l'ancien système euclidien, c'est-à-dire la représentation d'un espace, là, sous la forme d'une carte. Et donc, on est dans un type de représentation de l'espace et du temps qui est ancien, qui est euclidien. C'est la représentation qu'on a dans nos poches. Et en même temps, le temps réel et l'espace-temps, notamment, qui a été évoqué tout à l'heure dans le cadre de la relativité restreinte et générale, est fondamental et consubstantiel au dispositif de GPS. Pour le dire très très rapidement, un GPS en fait fonctionne avec des satellites, et comme vous savez, les satellites sont très loin de la Terre, et ces satellites vont à une vitesse très très élevée. Et ces deux paramètres, le fait d'être assez loin d'une masse et d'être à une vitesse différente de vous, fait que la temporalité se déroule de manière différente de ce qui se passe dans votre poche. Et donc, il y a en fait des temporalités. Le temps est le même, mais la temporalité, l'écoulement du temps n'est pas le même. Et donc, il y a des algorithmes qui, sans cesse, dans votre poche en l'occurrence, calculent et essayent de vous géolocaliser parce qu'en fait, il y a cette signature du signal qui est émis à un instant très précis sur le satellite, mais qui ne correspond pas à votre instant puisqu'il y a un décalage temporel. Et que cette relation, en fait, à l'espace-temps, cet espace-temps qui est né avec la relativité, est incarné dans un dispositif numérique, qu'on peut qualifier de numérique du GPS, mais qui est pour nous une boîte noire. C'est-à-dire que la plupart, quand on interroge les enfants et même les adultes, comment fonctionne le GPS, la plupart vont vous dire, c'est les GPS qui savent où on est, Grosso modo, c'est une représentation qu'on a comme ça. Alors qu'en fait, ça se joue dans votre poche, bien sûr, et ça se joue surtout sur des énoncés scientifiques et techniques qui sont totalement méconnus du grand public. Ça, c'est un selfie, comme on dit, lors de la mission de Rosetta. Deuxième élément, dispositif de contrôle. Donc, j'ai répondu à la question tout à l'heure, mais c'est ouvert au débat, bien entendu. Est-ce que le temps réel est une spécificité du numérique ? Non. Est-ce que le temps réel a plusieurs définitions ? Oui. Est-ce que ces définitions peuvent être contradictoires ? Oui. Et donc, il faut vraiment travailler sur ces aspects-là. Deuxième hypothèse, les dispositifs de contrôle. On est dans une société de contrôle. Et souvent, on met sur le dos, j'ose dire, du numérique, ces dispositifs de contrôle. On ne peut pas le nier, c'est évident. Mais les évidences, il faut les critiquer. Est-ce que le numérique est la matrice ou la cause originelle de ce contrôle ? Comme vous le savez, là aussi, et je pense notamment à Norbert Elias, puisque vous faites partie du centre Norbert Elias, tous les deux, Norbert Elias a d'ailleurs tout un passage théorique sur l'arrivée des montres. On connaît bien en fait les horloges, c'est-à-dire que les horloges sont arrivées aussi par le biais d'une synchronisation, par effet de vitesse de l'arrivée des trains dans les territoires et dans les gares. Il fallait bien synchroniser les espaces pour avoir une forme de ponctualité. Donc la vitesse technique des locomotives à l'époque entraîne une régularisation, une standardisation et une synchronisation des échelles de temps et de la temporalité, et donc l'arrivée de temps ou de temporalité, de mesure du temps identique à différents endroits du territoire, ce qui paradoxalement allait à l'encontre de ce qu'on pourrait appeler la relativité générale, puisque là, ça nous donne l'illusion qu'on est dans un espace neutre, dans une temporalité neutre qui est partout pareil, identiquement la même à tous les points du territoire, parce qu'en fait on a cette perception-là et on est encore dans une sorte de théâtre, j'ose dire, de réalité newtonienne. Et l'arrivée de la montre, Norbert Elias en parle notamment sur la régularisation et la manière dont la montre agit comme dispositif technique, en fait, hein, sur les usages sociaux et les habitants d'une ville, le fait de se donner rendez-vous à une heure précise, le fait, au contraire, d'essayer d'échapper à l'emprise en fait, du temps qui est de plus en plus mesurée dans le système des industries. Mais je prends aussi ces exemples-là pour nous dégager d'une vision techniciste, mais c'est pourtant des techniques, ce sont des techniques de contrôle, ce sont les prisons panoptiques, justement. Les prisons panoptiques, vous voyez une tour centrale au centre de cette prison, une tour centrale qui permet en fait de surveiller les prisonniers qui sont disposés tout autour de cette tour centrale. C'est-à-dire que les prisonniers, là c'est une ruine, les prisonniers peuvent être vus par un surveillant. Et une des spécificités de la prison panoptique était que cette tour centrale permettait de voir l'ensemble des cellules qui étaient disposées tout autour, mais permettait aussi de ne pas être vu. C'est-à-dire que le surveillant surveille, les surveillés ne pouvaient pas surveiller le surveillant parce qu'en fait, il était caché dans sa tour de contrôle. Donc c'est un dispositif de pierre et de métal, une architecture au sens tout à fait classique du terme, qui est aussi une architecture de distribution du visible et donc un système de contrôle. C'est-à-dire qu'on pourrait, en poussant un peu loin la réflexion, et notamment les anachronismes, on pourrait dire que la prison panoptique du 19e siècle avait automatisé le système de contrôle qui est en œuvre aujourd'hui dans les espaces numériques. C'est-à-dire que le surveillant peut voir les surveillés et les prisonniers, et les prisonniers en fait ne savent pas qu'il y a un surveillant. Ce qui veut dire que le surveillant n'a pas besoin d'être là, parce que les surveillés ont l'impression d'être surveillés tout le temps. Ils ne savent pas s'il y a un surveillant ou pas. Et ce petit détail permet de montrer que l'architecture de pierre peut aussi avoir un rôle d'automatisation de la surveillance. C'est-à-dire que la surveillance est exercée par l'architecture, est exercée par le dispositif de visibilité et pas nécessairement par des personnes humaines qui viennent surveiller. Et donc on voit que l'automatisation, l'idée du temps réel, je ne dis pas que toutes ces catégories sont les mêmes et qu'il y a une forme de continuité parce qu'il y a bien des ruptures, mais en tous les cas, elles ne sont pas nécessairement spécifiques à notre culture numérique. Il faut aussi avoir cette distanciation peut-être historique. Un autre exemple très rapide, les gazomètres. Pour ceux qui m'ont écouté il y a quelques années dans le cadre de ma thèse, c'était un peu une obsession. Je n'ai pas fait de psychanalyse depuis, mais en tous les cas, la question des gazomètres est intéressante parce que les gazomètres au 19e siècle sont soumis eux aussi à une forme de panoptisme que je viens d'expliciter, c'est-à-dire qu'en fait les gazomètres avaient cette capacité, c'est-à-dire qu'en fait vous avez là des structures externes, on n'en voit quasiment plus en France parce que soit il y a eu des bombardements pendant la Seconde Guerre mondiale, soit ils ont été détruits pour éviter évidemment c'était des réserves extrêmement fortes pour pouvoir avoir des bombardements intenses, donc les gazomètres de ce type-là existent très peu, par contre vous en trouvez en Chine, en Grande-Bretagne, en Italie aussi, et donc ces gazomètres en fait c'est des espaces de stockage de gaz Qui dit stockage de gaz dit aussi régulation, c'est-à-dire qu'on est dans un système de réseau au XIXe siècle, sans passer par le numérique et l'électronique, et c'est presque une interface, si je faisais un anachronisme. C'est-à-dire que le conteneur de gaz se déployait comme une sorte de télescope vertical en fonction de la quantité du gaz qu'il pouvait contenir. C'est-à-dire que plus les habitants consommaient du gaz rapidement, on pouvait le voir directement, comme si c'était une interface analogique. On pouvait voir si le gaz était stocké ou pas, puisqu'en fait, vous avez ce conteneur qui se déployait, qui descendait de manière plus ou moins mécanique, et ce que j'appelais en fait une mécanographie. Donc là aussi, la survisibilité, le fait d'avoir des instances techniques qui permettent de contrôler les usages dans le cadre d'un réseau, ça peut paraître être très contemporain, et en réalité, c'était déjà là aussi, même si c'était différent, au XIXe siècle. Et quand on parle en fait des évolutions techniques, on pourrait me dire, dans ces cas-là, il y a une continuité, et donc il y a une sorte d'histoire à pente douce. Non, en réalité, puisque effectivement, il y a quand même des ruptures. Et si on se pose la question des gazomètres, par exemple, aujourd'hui, quels sont les gazomètres aujourd'hui ? Ça a cette forme. Donc c'est totalement différent. Et le fait de questionner nos environnements contemporains, a priori non numériques, en l'occurrence il y en a puisqu'il y a des contrôles par ordinateur, permettent d'instaurer aussi un rapport à la technique très différent et un rapport au numérique un peu différent. C'est-à-dire qu'on sort du numérique pour y revenir et que là, en l'occurrence, on passe d'un système ancien, 19e siècle, qui était basé sur le panoptisme, où on voyait les usages en fait en temps réel, entre guillemets, de consommation de gaz. Et ici, c'est quelque chose de totalement opaque. C'est-à-dire qu'on a une sphère opaque qui ne permet plus en fait d'avoir accès aux informations analogiquement, qui nous oblige en fait à passer par des écrans, par des interfaces, par des modes de visualisation pour savoir si le gaz est présent ou pas, puisque là, en l'occurrence, c'est un système de stockage en basse pression. Et si, après, on continue, on tire sur le fil pour arriver quand même sur les questions artistiques et esthétiques, si on garde la sphère comme étant, en fait, peut-être une des formes contemporaines spécifiques de notre environnement, on va la retrouver dans un certain nombre de dispositifs qui existent depuis quelques dizaines d'années et dans ce qu'on appelle le monde numérique. Par exemple, ici, ce sont des radomes. On en a en Bretagne, à Pleumeur-Bodou en particulier. Ça date des années 50 et 60. Ce sont des radars. Et là, en l'occurrence, c'est des radars qui permettent de surveiller l'activité, notamment les communications entre les satellites. Et je peux vous dire que ces systèmes sont très utilisés depuis très longtemps et de manière intensive aujourd'hui pour notamment surveiller et analyser les big data issus de nos conversations téléphoniques et conversations sur Internet. Et paradoxalement, on a cette visibilité d'un côté qui était du côté des surveillants au XIXe siècle, qu'on voit se réinstaurer, mais de manière très différente, très forte. Et là aussi, il y a une forme d'opacité. C'est-à-dire que, pour revenir à Michel Foucault tout à l'heure, si on dit mais le numérique, c'est une sorte de panoptisme et de contrôle exacerbé, oui, mais en même temps, ça se joue de manière différente. Et voilà, on peut tirer le fil, et je ne le ferai pas là, je le fais de manière très, très rapide, sur la question esthétique dans les formes sociotechniques. Là, on voit, par exemple, c'est un capteur de neutrinos qui, en fait, est en déplacement dans une ville, et ces capteurs de neutrinos, eux aussi, une forme sphérique, donc un rapport esthétique, en fait, à la manière dont on peut penser et pratiquer le monde. Et voilà, on peut tirer le fil comme ça et on arrive en fait à un certain nombre de dispositifs techniques, et notamment électroniques, électro-optiques et informatiques. Là, en l'occurrence, les systèmes de vidéosurveillance qu'on voit absolument partout aujourd'hui et qui ont un vrai rôle positif, un vrai rôle négatif. Et donc, cette relation doit être mise en relation. Et je ne sais pas si vous le savez, mais la plupart des caméras installées dans les supermarchés, pas toutes, mais un certain nombre, sont fausses. C'est-à-dire qu'en fait, il suffit de mettre un petit globe opaque noir et vous avez l'impression d'être surveillé alors que vous ne l'êtes pas. Et on retrouve le système en fait, du 19e siècle, du panoptisme pour le coup, où vous êtes surveillé sans surveillant. Et évidemment, les fictions se sont saisies de ça depuis très longtemps. Là, comme j'étais à la recherche d'exemples sphériques, j'ai pris l'exemple du prisonnier de la série télé, où en fait, on voit cet homme qui essaye de partir, qui est en fait schizophrénique, hein, il est enfermé dans sa propre folie, mais il essaye de quitter un territoire, et à chaque fois, il se fait rattraper par une sphère qui l'absorbe. Je trouvais là que c'était assez amusant de prendre cette fiction, mais qui a du sens aussi pour lire notre propre évolution sociétale aujourd'hui, parce que si on regarde précisément les outils numériques aujourd'hui, Vous allez dire que je suis un peu obsédé par la question des sphères, probablement. Mais vous regardez, par exemple, les Google Glass, hein, c'est-à-dire les lunettes de Google développées par Google. Il y a beaucoup d'autres opérateurs qui sont en train de faire des essais depuis très longtemps, depuis une vingtaine d'années, où en fait, vous avez des systèmes de réalité, non pas virtuelle, mais de réalité augmentée. Vous avez une superposition d'informations numériques, qu'elles soient visuelles ou chiffrées ou textuelles, sur vos lunettes, avec votre propre vision physique. Mais dans la manière dont les brevets sont déposés, les brevets techniques passent par des dessins. Et là, j'ai repris un des dessins de Google, c'est un brevet déposé, j'ai simplement rajouté le cercle jaune, où finalement, on est pris, pour reprendre le terme d'un théoricien dont je viens d'oublier le nom, excusez-moi, ça me reviendra tout à l'heure, américain, qui parle de cage de verre, c'est-à-dire que les nouvelles interfaces, pour piloter en fait votre interface sur vos lunettes, vous avez des lunettes avec un écran qui se surimprime sur votre réalité physique, et donc vous avez aussi, bien entendu, vous devez interagir, et donc vous avez une caméra. Et cette caméra est un capteur, et pour agir avec la caméra, on est dans des interfaces dites gestuelles, c'est-à-dire que vous pouvez la piloter en faisant un certain nombre de gestes devant vous. Et ces gestes-là, évidemment, sont liés à la nature physiologique de votre corps, mais quand on fait ça, effectivement, on est autour d'une sphère, d'une certaine manière. Et donc on voit, par les usages, tels qu'ils sont dessinés, tels qu'ils sont brevetés, on a aussi cette question de rapport à la technique très particulière, puisque les usages eux-mêmes sont pris dans cette catégorie. Et enfin, pour terminer mon exposé, deux exemples artistiques, d'artistes qui ont pris comme élément moteur, mais pas forcément comme sujet, mais comme élément moteur de leur création, les technologies contemporaines. Je prends comme exemple Samuel Bianchini, qui illustre l'image du colloque, qui est l'image du colloque lui-même, une des œuvres de Samuel, qui fait partie du laboratoire ENSA Lab que j'évoquais tout à l'heure. On a collaboré avec Orange Labs pour mettre en place une installation qui s'appelle Surexposition et qui reprend le morse comme moyen de communication. Et donc, en fait, l'idée de Bianchini, au départ, était d'avoir un rapport critique au numérique, mais en affrontant directement, en fait, ces spécificités, en les questionnant et en essayant aussi, quand même, de les résoudre. Donc, l'idée était très simple. Comme toutes les idées simples, c'est compliqué de les mettre en œuvre. Dans un smartphone, vous avez un smartphone qui va afficher en fait du code Morse. Ce code Morse, en fait, c'est vous, c'est le spectateur ou la personne, c'est vous qui le générez. Donc, vous envoyez un texte sur un serveur en français et c'est automatiquement traduit en fait sous la forme de Morse. Ça apparaît sur votre téléphone mobile. Jusque-là, rien d'extraordinaire. C'est un traducteur de Morse en fait. Mais dans le même temps, l'idée de Bianchini était d'instaurer, en fait, de faire sortir les écrans de nos poches et d'instaurer en fait une sorte de monolithe noir dans l'espace public urbain avec un projecteur de lumière. Qui, voilà, là, c'était des essais à l'école des Arts Déco, où notamment vous avez un rayon lumineux extrêmement puissant, puisqu'il peut monter à plusieurs kilomètres. C'est en fait la technologie qui équipe la Tour Eiffel. Et au lieu d'avoir un système de phare qui balaye horizontalement, c'est un système vertical. Et vous avez en fait ce code Morse qui tout à coup est visible à plusieurs kilomètres de l'installation artistique. C'est-à-dire que c'est une installation artistique, c'est un rapport à l'espace urbain, c'est assez classique, mais par le truchement de deux éléments, en fait, le smartphone, parce que vous pouvez évidemment interagir même depuis Paris, alors que c'était à Lyon, où il est question, d'ailleurs ça doit être remontré au Palais de Tokyo le 4 décembre, un rapport en fait à l'espace urbain et l'espace informationnel de manière rapide. Je vais vous montrer une vidéo. Alors, voilà. Donc voilà, il y a une forme esthétique très, non pas neutre, parce qu'elle ne peut pas être neutre, mais opérante. Opérationnel. Et donc là, on voit ce code Morse, et on voit bien qu'il y a une synchronicité qui est assez simple à mettre en œuvre pour le coup, mais pas forcément, parce que c'est un système de projection très particulier. Et voilà ce que ça donne à distance. C'était à Lyon il y a tout juste un an, dans le cadre de la fête de la lumière, qui est d'ailleurs, comme vous le savez, annulée suite aux attentats aujourd'hui. Enfin, il y a quelques jours, la fête de la lumière est annulée. Et donc on voit, il y a un certain nombre. Alors c'est assez intéressant parce que je ne peux pas rentrer dans le détail. Donc là, on voit les visiteurs qui peuvent visualiser dans leur poche. Et là, un des enjeux techniques, vous voyez, regardez, c'est la synchronicité. C'est la synchronicité, en fait, entre ce que vous voyez sur votre écran, smartphone, et ce qui est diffusé de manière quasiment analogique dans l'espace public. Et ça, on revient sur les deux temps réels que j'évoquais tout à l'heure. Pour moi, l'artiste est plutôt du côté du temps réel à la Bergson. La question de la durée. Tandis que Bianchini, d'un point de vue technique, affronte la question du temps réel d'un point de vue techniciste. C'est-à-dire qu'il y a une synchronicité, il y a un leurre, une illusion, parce qu'il y a bien un laps de temps entre ce qui s'affiche sur votre écran et ce qui est diffusé. Et tout l'objectif technique était de faire croire, d'une certaine manière, d'avoir un temps réel, une immédiateté, pour qu'on ait les deux images avec une latence extrêmement faible. Alors que ça, c'est une illusion technique. Ça, ça procède d'un temps réel spécifique aux instances numériques. Et en même temps, le fait qu'un artiste qui est pris dans un sens plutôt bergsonien, selon moi, les deux juxtaposés sont en crise. C'est-à-dire que l'approche artistique permet de questionner le temps réel technique et doit l'être de manière aussi ludique. En l'occurrence, c'était une installation largement prise à partie, j'allais dire, par le public. Il y a une petite enquête, hein, pas sociologique, mais de recueil de réactions. Il y a notamment une petite fille qui a envoyé un message à son papa, et elle disait en fait à l'intervieweur, écoutez, mon père est au ciel, et je suis sûr qu'il a reçu ce message, je suis très contente. Et on voit là, en fait, des appropriations et des réceptions qui sont extrêmement fortes, qu'on n'avait pas prévues, et qui participent en fait aussi à d'autres types de fiction qui échappent évidemment totalement à l'artiste ou à la conception que l'artiste avait de son installation. Et il me semble que c'est un élément aussi important, c'est qu'on arrête de parler de l'artiste concepteur producteur et de l'autre des publics récepteurs. Je ne dis pas non plus que les publics vont fabriquer l'œuvre, mais dans la réception, et on le sait depuis Umberto Eco beaucoup plus tôt avec Marcel Duchamp, eux aussi en fait évidemment fabriquent d'une certaine manière l'œuvre. Je vais prendre un autre exemple. Alors je ne sais plus comment on sort. Alors je vais simplement faire. Alors je ne vais pas aller jusqu'au bout parce que j'ai plus trop le temps. Et je vais prendre un dernier exemple. Dernier exemple artistique. Juste pour terminer sur cette exposition, effectivement, il a utilisé le code Morse. Alors on peut faire toute une analyse en fait sur le code Morse qui est apparu au 19e siècle, et notamment faire un parallèle entre ces modalités de communication. Il n'y avait pas de numérique à l'époque, mais il y avait une forme d'émergence d'un type de création de l'information par le signal, et notamment là par des codes, le code Morse. Et au 19e siècle, comme vous le savez aussi, il y avait toute une mode sur les tables tournantes, et on communiquait avec les morts, non pas par télégraphe, mais en tous les cas par des systèmes aussi codés. Et donc on peut mettre en parallèle, et je ne suis pas le seul à le faire, il y a beaucoup de théoriciens qui le font et des artistes aussi, entre ces modalités de communication à distance. Il faut savoir qu'au 19e siècle, la plupart des gens ne savaient pas, bien sûr, et n'imaginaient pas, et d'ailleurs ne prétendaient que c'était impossible de pouvoir communiquer en direct avec quelqu'un qui se situait à plusieurs centaines de kilomètres. À partir du moment où les aspects scientifiques, techniques ont été mis en place et prouvaient qu'on pouvait le faire, une partie de ces personnes, notamment Edison lui-même, pensait qu'on pouvait donc du coup mettre en place aussi et anéantir un ancien frein, c'est-à-dire créer une relation avec les morts. Donc on voit bien que l'aspect l'imaginaire est très lié en fait au dispositif technique qu'on peut mettre en œuvre. Et en l'occurrence, juste une petite incise, le sémaphore lumineux qu'a créé Samuel Bianchini avec les chercheurs d'Orange, en fait, se rapporte lui aussi non, c'était un système qui n'est pas du tout numérique, qui est celui des télégraphes des frères Chappe. À la fin du XVIIIe siècle, il y avait des télégraphes optiques, c'est-à-dire qu'il y avait des signaux lumineux. Donc on voit à gauche en fait une tour avec des bras articulés qui permettaient de générer des codes. Et il faut savoir qu'en fait, de mémoire, de manière approximative, hein, mais on pouvait envoyer un message très simple, hein, codé, en général militaire, à la vitesse de 200 ou 250 km/h. C'est-à-dire que de colline en colline, on répétait le même code, et cette répétition visuelle à distance, comme on le fait dans d'autres civilisations plus anciennes, permet d'avoir une vitesse de propagation du signal extrêmement forte. Et donc, quand on croit qu'il faut attendre la machine à vapeur, l'électricité, puis l'électronique pour qu'il y ait une forme d'accélération, on peut s'apercevoir que l'agencement architectural, simplement l'agencement de bois et de pierre, participe aussi en fait, à cette forme d'accélération que je décrivais tout à l'heure, que nous décrivons tous. Et enfin, un dernier exemple, très rapide, pour vous montrer aussi que tout ne se passe pas dans le numérique. Alors, on peut dire que je prends un peu à rebours la thématique, mais en réalité, on peut me dire que ce que j'évoquais tout à l'heure est un obstacle à ce que je viens de dire, c'est-à-dire qu'en fait, dans les sciences, la technologie, le numérique est extrêmement puissante. Mais cette jeune artiste qui fait un doctorat, Lia Giraud, travaille sur ce qu'elle appelle des algéographies, c'est-à-dire que ce sont des images qui sont produites par des algues microscopiques. Et donc elle crée un nouveau type en fait, d'image qui certes fait intervenir du numérique, mais aussi beaucoup d'éléments biologiques. Et là, ça sera la dernière vidéo où on va voir en fait une image indéterminée. Alors, par analogie, on pourrait dire, mais ça ressemble un peu, même si c'est très différent, au pixel d'une image d'un téléviseur qui n'aurait pas d'image. Et au fur et à mesure, apparaît, là c'est accéléré, vous avez le compteur en haut à gauche, apparaît en fait des images figuratives de type photographique. Mais ces images sont constituées par les microalgues qui réagissent à la lumière. Et donc en fait, elle interroge dans le cadre de son doctorat, non seulement elle crée une esthétique qui lui est propre en termes artistiques, mais aussi elle interroge les outils qu'elle est en train de créer elle-même et le rapport en fait au monde contemporain, à l'apparition des images et peut-être, ce que j'évoquais en tout début de matinée, la possibilité d'avoir une capacité d'anticipation de certains artistes. Cet artiste, comme beaucoup d'autres qui travaillent en lien avec les biologistes, nous disent qu'il y a le numérique, mais qu'en fait des révolutions sont en œuvre aujourd'hui de manière beaucoup plus forte. Et on est capable aujourd'hui de mettre en place des matériaux, je pense à l'ESPCI, qui est une école d'ingénieurs à Paris, mais dans beaucoup d'autres laboratoires, des matériaux réactifs, responsifs, interactifs, sans informatique. Et donc on a un rapport à la matière qui continue à tirer sur le fil, par exemple, de l'interactivité, qui est une autre doxa du numérique, et qui se joue en dehors de l'informatique à proprement parler. Donc tout ça pour vous dire qu'il y a énormément de pistes en fait, de réflexion. J'ai bien entendu survolé et l'idée était simplement de vous signaler que le rapport au numérique doit se jouer de deux manières. D'une manière comme on le fait aujourd'hui dans le cadre de la journée, c'est-à-dire en focalisant sur des exemples d'artistes ou de médiation qui prennent le numérique ou les outils technologiques contemporains comme élément moteur de la création artistique ou de la médiation. Et ça, il faut qu'on le prenne comme sujet, comme objet de réflexion à part entière. Et en même temps, avoir toujours en tête, mais sans opposer des catégories, avoir en tête que le numérique, la force du numérique, c'est d'abord la force d'un discours. Ce n'est pas la force simplement des dispositifs. C'est que la doxa que j'évoquais en fait en début d'intervention est aussi également forte et que les pratiques artistiques et culturelles doivent aussi nous permettre de questionner les mots et les énoncés dans lesquels on est pris. Merci beaucoup pour votre patience.